Milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Florelle Manda.
Bonjour et bienvenue dans votre émission 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des futurs parents. Lorsqu'un couple décide de fonder une famille, leur histoire commence à s'entremêler plus intimement. Avoir un enfant est un événement important dans la vie d'un couple et s'entendre comme couple est bien différent de s'entendre comme parent. En effet, chaque personne est issue d'un milieu familial unique et possède son propre bagage. Les connaissances et les expériences de chaque parent donc peuvent être différentes. Il existe presque autant de méthodes éducatives qu'il existe de parents. Les divergences de vues peuvent être fréquentes. Toujours est-il qu'il faut être cohérent dans l'éducation des enfants, surtout quand c'est le premier. Alors, comment éviter les conflits quand on a un enfant? Comment créer ses propres règles pour rester un couple uni et épanoui? Nous en parlons avec nos invités. Bonjour Clarence Thierry.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneuse, auteur avec Sylvain Tillon du livre Le Pacte des futurs parents aux éditions Erol. À vos côtés, Ossina Gomez. Bonjour.
Bonjour Florelle.
Consultante en communication et stratégie de marque, vous êtes la créatrice de la web-série Maman du Monde. Avec nous également Patrick Avran, bonjour.
Bonjour.
Psychanalyste et écrivain, vous êtes l'auteur de Les Grands-Parents, une affaire de famille aux éditions PUF, ainsi que de l'ouvrage Les Pères Encombrants. Et nous serons également tout à l'heure en ligne avec Romina Rinaldi, docteur en psychologie chargée de cours à l'Université de Mons et journaliste scientifique à la revue Sciences Humaines, auteur de Éloge des mères imparfaite aux éditions Accent Aigu. Et quant à vous, les voisins, les voisines, si vous appréhendez l'arrivée d'un enfant ou si votre couple a été bousculé lorsque vous êtes devenu parent, faites-nous part de votre expérience, racontez-nous ce que vous vivez. On vous attend au 33 1 84 22 71 71 sur WhatsApp aussi avec des messages écrits, c'est le même numéro. Et puis vous nous suivez en direct sur Facebook et sur Twitter.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins avec vos messages sur Facebook, vos nombreux messages. Il y a Bouna de Nouakchott qui dit « Personnellement, je ne critique pas la façon que la maman a grondé l'enfant. J'essaie de lui parler quand nous sommes seuls. On se comprend, c'est dans la fratrie que ça se complique. Si je défends le plus petit, celui-ci va se permettre plus de choses envers son aîné. Avec eux, je n'arrive pas toujours à rester zen. Ils savent tirer parti de notre bienveillance, de notre amour. Ils me battent souvent à leur jeu, je dois dire à plate couture. Également Alfred de Kinshasa, pour créer ses propres règles et demeurer un couple uni et épanoui, il faut savoir communiquer pour le bien de l'éducation de l'enfant. Les parents doivent parler le même langage. Également Emmanuel, en Afrique, la majorité des couples ont leur premier enfant entre 20 et 30 ans. Certains ont à peine fini leur puberté qu'ils deviennent parents. Le problème, c'est qu'il faut vivre en couple pour se connaître avant d'avoir un enfant. La venue d'un enfant ne doit pas être vue comme un problème ou une sorte de pacte qui lie les mains et les pieds des parents. Ça, c'est pour vous, Clarence Thierry. L'éducation d'un enfant est basée sur l'amour des deux parents. Également, Christus à Kinshasa, tout commence déjà au moment des fiançailles, car chaque parent amène dans le couple l'éducation de ses propres parents. Vaste question, ça également. Et puis, Boubacar à Bamako, je pense que la venue d'un enfant est plus un signe d'unité. Elle doit être une force s'il y a tension. La source peut être autre part, mais elle ne vient pas de l'enfant. Et puis enfin, Mariam de Conakry. En Afrique, un mariage sans enfant n'est pas pensable. Si tu n'as pas d'enfant, c'est le divorce. C'est plutôt le manque d'enfant qui va créer des tensions. C'est mon cas et j'ai dû quitter mon mari après 3 ans de mariage car nous n'avons pas eu d'enfant. Le foyer démarre vraiment lorsqu'on a un enfant. D'ailleurs, le mariage n'est pas vraiment solide en Guinée que lorsque l'on a un enfant. Je vous l'avais dit, beaucoup de messages Facebook. Également vos messages sur WhatsApp, Abdel Fattah au Tchad.
Bonjour à 7 milliards de voisins. Je pense que les problèmes peuvent arriver à divers niveaux dans un couple. Mais je crois que cela dépend des malorganisations entre les deux conjoints. Il est essentiel de ne plus se focaliser sur les détails, mais de prendre le temps au contraire de dramatiser l'ensemble de vos erreurs respectives. L'objectif est de placer une nouvelle philosophie au sein de votre relation basée sur le lâcher-prise, l'instant présent où les reproches et le conflit n'ont tout simplement pas leur place. Cherchez à savoir ce que votre partenaire vous reproche exactement et de ne plus commettre les mêmes erreurs. Je vois que les disputes dans un couple demeurent les éventuels désaccords à l'avenir. Il est important que chacun fasse un pas vers l'autre Je vous remercie.
Beaucoup de choses dans ce message WhatsApp d'Abdel. Et puis il y a également enfin William qui est en banlieue parisienne.
Bonjour les voisins et voisines. Les enfants, quand ils viennent, il y a des problèmes des fois au niveau des répartitions des tâches dans la maison. Maintenant, moi, je ne fais pas, je ne veux pas l'accompagner à l'école, je ne veux pas aller assister à son événement, à son école, je ne veux pas faire cela. Il faudrait que, voilà, toi, tu le fasses. Souvent, c'est ça au niveau de l'éducation parce que les deux parents n'éduquent pas de la même manière. Aujourd'hui, moi, par exemple, je peux parler à ma fille de ne pas faire ce que ne me semble pas bon. Et sa maman, très souvent, elle prend parti. Que non, voilà, tu peux la laisser faire ça. Elle est encore petite, elle n'a pas encore compris et tout. J'ai dit oui, mais ça commence dès le bas âge, l'éducation. Parce que si on rate de son bas âge, elle va grandir avec ces habitudes-là. Donc, il faudrait que nous prenions notre autorité, qu'on l'applique. Pas méchamment, mais qu'on soit vraiment des parents pour que l'enfant puisse être mieux orienté.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Une question qui fait réagir nos voisins et nos voisines. Qu'est-ce que ça vous inspire, Patrick Avran, tout ce que vous venez d'entendre ?
On a vraiment fait le tour à peu près de toutes les questions qui se posent. Ce que ça m'inspire, c'est plusieurs choses. D'une part, qu'effectivement, avoir un enfant pour un couple, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'un couple, c'est d'abord un homme et une femme, ou bien deux hommes, ou bien deux femmes qui se rassemblent. Et avoir un enfant, ça devient autre chose, c'est-à-dire qu'ils deviennent parents. Et à ce moment-là, ça les sort de leur propre position, c'est-à-dire que d'une certaine manière, ça leur sort eux-mêmes de leur position d'enfant. Mmh. Et ça, il y a quelque chose à inventer à chaque fois. Et en même temps, quand c'est un couple qui fait un enfant, à ce moment-là, il faut effectivement qu'il soit d'une certaine façon à peu près d'accord sur un certain nombre de choses, les grandes règles. Oui. Mais en même temps, ils n'ont pas non plus à s'effacer. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus à se définir comme étant celui qui suit la règle de l'autre.
Oui. C'est le plus grand défi d'un couple, devenir parent.
C'est sans doute un des plus grands défis, oui. Et c'est en même temps aussi souvent, ce que nous ont dit d'ailleurs un certain nombre de personnes, une réalisation.
Mm-hmm. Clarence Thierry, vous voulez ajouter quelque chose sur ce que vous venez d'entendre ?
Ah ben, oui, c'est sûr, déjà, vivre en couple, c'est un grand défi aujourd'hui. C'est déjà pas si simple que de se mettre d'accord sur tout un tas de choses de la vie quotidienne. On vient de deux mondes différents, souvent. On a nos propres éducations respectives et on doit faire avec, composer et puis faire des choix communs, finalement, dans la gestion de la maison, dans la gestion du travail, la gestion des amis. Donc forcément, quand un enfant arrive, il y a une nouvelle gestion à trouver.
Effectivement. Dans votre livre, Clarence Thierry, le pacte des futurs parents que vous avez écrit avec votre conjoint, Sylvain Tillon, vous partagez donc avec humour votre expérience et celle de dizaines de parents, l'objectif donc et d'aider les futurs parents à créer leurs propres règles, comme vous, celles qui leur conviennent et qui permettent de rester un couple épanoui, malgré donc ce chamboulement. Il y a pas mal d'anecdotes dans cet ouvrage qui peuvent sans doute être des clés pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin. Mais alors d'ici là, moi je me demandais si on peut véritablement éviter plutôt les tensions avant d'expérimenter concrètement la parentalité, comme vous le disiez, ce qui semble peut-être un peu utopique quand on sait qu'un homme et une femme ne conçoivent pas du tout, en fait, de la même manière, le fait d'être parents.
Bah, c'est pas un livre miracle, hein. Des tensions, il y en aura forcément toujours. Et puis parce que on réajuste tout le temps. Et puis on peut pas tout prévoir, heureusement. Là, l'idée de ce livre, c'est plutôt de savoir quelles questions il faut se poser avant, en se disant, ok, en théorie, en tout cas, moi, je pense que là-dessus, on ne sera pas d'accord parce que voilà, moi, je pense ça, toi, tu penses ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un terrain d'entente alors qu'il n'y a pas encore d'affect de l'enfant ? Donc, c'est encore à ce moment-là beaucoup plus facile de pouvoir gérer ces tensions. Ouais. Maintenant, effectivement, il y en aura et puis ça permettra de réajuster les règles aussi.
Mmh. Au fond, c'est déjà dès la grossesse, si je puis dire, que les choses se concrétisent quand on devient parent, que c'est là qu'il faut se mettre d'accord, ne serait-ce que peut-être sur le choix du prénom, Ossina Gomez ?
Oui, tout à fait. J'aimerais rebondir également sur ce qu'elle a dit. Pour moi, il est un peu difficile d'anticiper. Dans mon cas personnel, je suis née mère le jour où j'ai donné la naissance à mon fils. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu prévoir.
Vous êtes maman d'un petit garçon
de
4 ans.
De 4 ans. Et aujourd'hui, la mère que je suis devenue surprend énormément autour de moi et mon conjoint en premier. Donc, anticiper... Oui et non. Pour moi, la réponse est assez mitigée. Donc, je réponds à ta question. Pour le coup, le choix du prénom, effectivement, c'est un grand sujet, vaste sujet. Mais là, une fois de plus, la communication et aussi, voilà, expliquer. Enfin, expliquer. Chacun arrive forcément avec sa liste de prénoms et expliquer en fait ce que cela signifie pour l'un et pour l'autre et trouver un terrain d'entente et un compromis qui convient au couple. Dans mon cas, en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
Alors, 7 milliards de voisins aussi, nous vous donnons la parole sur cette question de comment rester un couple épanoui quand on devient parent. Peut-être que vous avez des questions aussi à poser à nos invités. 33 1 84 22 71 71. Alors, nous sommes en ligne avec Wilfried de Cotonou. Bonjour Wilfried.
Oui, bonjour.
Vous avez 24 ans et donc vous n'êtes pas pressé d'avoir des enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Oui, je ne suis pas du tout pressé d'avoir des enfants pour la simple raison parce que je vis d'abord au Bénin et je connais la situation économique de mon pays.
Oui.
Je connais très bien comment le pays est. Je sais très bien aussi que beaucoup de couples sont pressés d'avoir des enfants et au final ne peuvent plus subvenir aux besoins de leurs enfants. Mm-hmm. Donc la majorité des jeunes ici sont pressés déjà à 24 ans, ils ont déjà un enfant et ils disent après que ce n'est pas erreur qu'ils ont eu leur premier enfant. Et vous constatez quelques années après ou bien quelques mois après que le couple est séparé, l'enfant reste avec la maman, le père ira se remarier de nouveau et puis ainsi de suite et ainsi de suite.
Vous voulez réagir ?
Donc du coup, moi, personnellement,
je pense que
la vie de couple commence déjà dès la rencontre de l'homme et de la femme. Donc il faut déjà établir les règles et puis le reste vient après.
D'accord. Merci beaucoup à Wilfried. Clarence Thierry.
Ouais, c'est que la jeunesse de ce livre dans mon couple, à la base, c'est vraiment parce que mon conjoint ne voulait pas d'enfants. Il ne voulait pas d'enfants parce qu'il avait peur. Et comme je pense de plus en plus d'hommes aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de moins avoir de temps avec leur conjointe. Ils ont peur de moins avoir de temps pour leur vie à eux.
Et les femmes n'ont pas peur de cela ?
Je pense. Alors, je ne veux pas faire des grosses généralités. Voilà. Mais je pense qu'on a des peurs, mais l'envie est plus forte que tout. Moi, je ne me suis pas posé la question. Quand il me disait toutes ces peurs rationnelles, je ne pouvais malheureusement pas tellement les... Je n'avais pas d'argument. Donc oui, on aura moins de temps peut-être pour nous. Oui, ça peut être compliqué. Oui, il y a plein de choses qu'on ne peut pas prévoir. Oui, il peut être handicapé. Oui, il peut... voilà. Donc toutes les peurs, je ne pouvais pas tellement... Par contre, j'avais envie d'essayer et que je ne concevais pas ma vie sans. Donc, et ça, c'était assez irrationnel. Donc c'était compliqué pour moi d'avoir ces peurs très rationnelles avec mon envie irrationnelle. Et ce livre-là, pour nous, en tout cas, ça a été la solution d'essayer de se projeter et puis de pouvoir rationaliser les choses et de pouvoir se dire « Ok, notre vie ne va peut-être pas tant changer parce qu'on va essayer de mettre quelques règles qui te permettra de garder ta liberté et de limiter ces contraintes. »
Un mot sur c'est la jeunesse qu'évoque Wilfried, Patrick Avram.
La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, il y a une différence entre l'enfant qu'on attend, c'est-à-dire celui que l'on rêve, celui dont on a peur éventuellement qu'il arrive. Et puis, comme vous le disiez, on ne peut pas anticiper. C'est-à-dire que nécessairement, l'enfant qui naît, on ne s'y attend pas. C'est un autre. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient effectivement un autre vraiment. Hein. Mm-hmm. Si on le fabrique trop dans sa tête et si on essaye de projeter ça, à ce moment-là, on ne fait pas un enfant, on fait un robot. Hein. Donc il y a dans cette attente tout ce qu'on peut avoir comme crainte, comme peur de l'avenir, comme peur de rupture du couple, mais aussi comme idéalisation. Hein. C'est-à-dire qu'aussi, l'enfant qu'on attend, c'est celui qu'on espère qu'il va réaliser ce qu'on n'a pas pu soi-même réaliser. Mais l'essentiel, c'est être à l'écoute de celui qui vient au monde. Et il est nécessairement différent de tout ça.
Mmh. Alors, nous sommes également en ligne avec Danclou qui est à Lomé. Bonjour Danclou. Allô ?
Bonjour.
Oui. Donc, alors, vous nous entendez ?
Je ne vois pas très bien.
Très bien. Nous également. Donc, je vais essayer un petit peu de résumer parce que je sais un peu de quoi il est question. Donc, en fait, vous nous avez dit que avec votre épouse, vous discutiez beaucoup du fait que vos enfants parlent anglais. C'est ça, que c'était un sujet de conflit avec votre épouse, n'est-ce pas ?
Oui, Madame Farouchma francophone.
Oui.
Alors que moi, je voulais élargir l'horizon pour les enfants parce que là où nous sommes, nous avons le Ghana à côté, le Nigeria.
Okay.
Nous sommes obligés de composer avec eux. Donc, moi, j'ai décidé que les enfants faire l'école anglaise.
D'accord.
Donc, ça n'a pas été du goût de madame. Mais finalement, on a trouvé un terrain d'entente.
Et
moi, je m'occupe du côté éducation anglaise, je m'occupe de ce côté. Elle s'occupe du côté français pour les enfants.
Donc, il y a deux éducations, éducation francophone, éducation anglophone, c'est ça?
Voilà, ils voulaient la faire bilingue. Moi, je voulais qu'ils deviennent bilingues.
D'accord. Mais ils le seront finalement, puisque si vous vous occupez quand même du côté anglais.
Bon, le problème est que, bon, l'école qu'ils font, c'est une école bilingue. Donc, ils ont des difficultés en anglais. Moi, je les aide. Comme moi, je comprends un peu l'anglais, je les aide.
D'accord.
Ils ont des difficultés en français. C'est madame qui les aide.
Très bien. Merci beaucoup, Danclou. Ossina Gomez.
Oui, ce sujet me parle énormément parce que, comme je le disais, je produis une web-série qui s'appelle Maman du Monde. Et la question de la transmission de la langue est au cœur de.
Vous pouvez nous rappeler un petit
sujet.
Peu ce qu'est Maman du Monde?
Oui, tout à fait. Maman du Monde, c'est une web-série qui permet d'intégrer les familles multiculturelles, donc des familles métissées. Et je donne la parole à ces mères qui partagent comment est-ce qu'elles transmettent à leurs enfants leur richesse culturelle, dont la langue. Et dans la grande majorité des cas, du moins les mères que j'ai interviewées, celles qui ont une langue autre que le français, naturellement, elles transmettent. Donc c'est instinctif, dès la venue de l'enfant au monde, elles ont ce besoin de renouer avec leurs racines et elles transmettent la langue. Quelquefois, ça, c'est aussi source de conflits parce que la maman et l'enfant ont des échanges que le papa ne comprend pas. Mais en général, les mamans arrivent à expliquer au père. Et surtout, c'est une force et une richesse aussi pour l'enfant d'avoir cette double culture. Ensuite, ce qui m'interpelle, c'est que c'est les conflits, il n'y a pas de couple sans conflit. Et les situations de crise sont justement des occasions de croissance et de progresser. Et la famille gagne forcément. Donc, se taire ou se cacher son envie pour... par crainte de conflit n'est pas forcément, à mon sens, la solution. Il faut qu'il y ait des conflits, mais des conflits qui soient gérés de façon pertinente et intelligente.
Et sereine.
Là, ils ont trouvé un compromis. Et c'est cela, pour moi, le couple. Hein. Il n'y a pas de couple sans conflit, sans divergence d'opinion. Le tout, c'est de pouvoir trouver des compromis.
On va continuer de discuter sur ce sujet. 33 1 84 22 71 71, si vous avez envie aussi de réagir. D'ici là, dans 7 milliards de voisins, on écoute Aurel San, La Famille. Tiens donc.
La famille, la famille, la famille. La famille, la famille. La famille, la famille, la famille. La famille. Assis au milieu d'une salle des fêtes qui pue le moisi. Un an après avoir avoué je déteste ces fêtes de famille. Je pensais jamais revenir, c'est comme si j'étais jamais parti. Je crois même que tata réutilise les mêmes verres en plastique. J'ai cru que la famille allait me lyncher. La moitié m'a dit que ça les fait marrer. L'autre agit comme si j'avais rien fait. Combien de fois je les ai défoncés dans mes textes? Pourquoi j'écris la même merde que les comédies françaises que je déteste? C'est quand on risque de perdre les choses qu'on comprend leur valeur. Je suis émotif, j'aurais pas dû attaquer le planche à 4 heures. C'est fou à quel point je suis soulagé que personne fasse la gueule. Si personne me demande de chanter, je crois que je vais faire tout seul. J'aimerais faire un discours parce que j'ai bu. Levez tous vos verres, j'aimerais dire un truc. Pour les bons et les moments gênants qu'on a vécu. Pour tous ceux qu'on verra jamais plus, j'aimerais rappeler. On aurait pu trouver des excuses, mais on se retrouve ensemble dans un coin perdu. Quoi qu'on en pense, une chose est sûre, on restera la meilleure famille qu'on ait jamais eue. On va se faire chier si je vous fais des excuses. Souvent je parle de disputes, de fin de repas, j'aimerais parler des débuts. Quand Christian faisait le Père Noël, jusqu'à 10 ans j'y ai cru. Le jour où Nico m'expliquait pourquoi c'est Nike on débule. Bien sûr, personne aime voir son père faire des blagues de cul. Mais bizarrement, c'est le genre de blague grâce auquel je suis connu. Les parties de foot avec les cousins m'ont appris un truc. C'est qu'on a besoin que deux cailloux pour avoir un but. J'y ai pas cru quand tata m'a offert Megaman. J'avais même pas la Mega Drive, j'kiffais rien que de regarder la boîte. Quand vous dansiez la chenille, je rêvais d'être né autre part. Comment j'ai fait pour pas voir que tout le monde s'amusait sauf moi? La fois où tonton allait mal et qu'il a pas fait de blague. J'ai compris que même si elles sont nazes, il vaut mieux qu'il les fasse. Pour fêter mon permis, il m'a prêté son escorte. Un vrai choc, tellement fier, j'ai décapoté sous la flotte. Bruno a sauvé des hivers avec son caméscope. S'il y avait YouTube, je te jure qu'on aurait percé à l'époque. En fait, j'en rajoute, c'était nul, on aurait fait un flop. Ma mère était affligée, mais elle disait qu'elle trouvait ça top. J'aimerais faire un discours parce que j'ai bu. Levez tous vos verres, j'aimerais dire un truc. Pour les bons et les moments gênants qu'on a vécu. Pour tous ceux qu'on verra jamais plus, j'aimerais rappeler, on aurait pu.
Merci d'être avec nous dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des futurs parents et de comment rester unis en tant que couple avec nos invités, Ossina Gomez, Clarence Thierry et Patrick Avran. Alors en 2016, une étude allemande rapporte que l'arrivée d'un premier enfant rendrait certains parents moins heureux qu'avant la naissance. Ossina Gomez, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes maman justement d'un petit garçon de 4 ans ? Heureuse ?
Oui, complètement. Complètement heureuse. Cet enfant, justement, on l'a attendu, on l'a désiré, on ne l'a pas idéalisé. Je ne m'étais pas projetée.
Mon conjoint là, vous répondez un peu à Patrick Avran.
Oui, donc je me suis laissée surprendre et je l'ai accueilli, oui. Je l'ai accueilli tel qu'il était.
Oui.
Et je me suis laissée transformer. Forcément, j'ai dû changer beaucoup de choses dans ma façon de voir. Et moi, je pourrais dire que être devenue mère, c'est accompagné pour moi aussi de la découverte d'une certaine humilité. Mm-hmm. Parce que je n'y avais pas à lui imposer. Et plutôt à être à son écoute. Et cela n'est pas toujours évident, c'est challengeant au quotidien. Mais je suis persuadée que lorsqu'on se met à l'écoute de l'enfant, au final, tout se passe très bien.
Oui. Alors ici, autour de la table, vous avez rencontré de nombreuses familles, de nombreux parents, ne serait-ce qu'avec votre ouvrage « Le pacte des futurs parents », Clarence Thierry, ou vous, Patrick Avran. Si vous deviez donner le principal sujet de discorde que vous avez constaté, qu'est-ce que ça serait l'allaitement, peut-être ? On a parlé de la double culture tout à l'heure.
La famille de l'autre, pas mal.
La famille de l'autre, ça c'est dans le couple, est-ce que c'est aussi dans la...
Ah bah oui, mais elle prend encore plus d'importance, alors oui, forcément.
Je pense qu'effectivement, un des sujets principaux de discorde est celui quand on est psychanalyste, quand ils reçoivent des enfants, c'est quand les grands-parents veulent imposer chacun leur propre façon d'élever les enfants.
Oui.
Et il faut mettre à l'écart... Devenir parent, c'est aussi se débarrasser de ses propres parents.
Faire le deuil de l'éducation qu'on a reçue de ses
oui,
parents.
Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas à en faire le deuil, l'accepter, mais on passe à autre chose.
Hein. Oui,
c'est-à-dire qu'on ne reproduit pas le couple de ses parents. On est avec quelqu'un d'autre.
Oui, vous disiez.
Oui, c'est en plein un peu de l'autre, parce que nos conflits, les sources de nos conflits, c'est beaucoup lié à notre propre éducation, où chacun peut avoir des repères très différents. Et là, il va falloir faire un choix avec un enfant qui est commun et avec des repères différents. Donc forcément, les grands-parents sont un peu le reflet de nos disputes. Donc je pense que oui, la famille... Prend beaucoup d'importance à ce moment-là.
Oui, vous êtes d'accord avec ça ?
Oh que oui. Sans commentaire.
Bon, alors pour nous permettre de comprendre davantage le sujet, tout de suite, reportage. Babette et William sont parents de deux petites filles, Cerise 11 ans et Salomé 6 ans. Il est architecte, elle est infirmière et auteur d'un blog Not Just Mom. Alice Milo a rendu visite à la petite famille en Seine-et-Marne à l'heure du petit déjeuner.
Les viennoiseries, il y en a beaucoup parce que c'était genre 3 achetés, 1 offert.
Oui, je savais.
Vous faisiez quoi en haut ? Toi, tu chantais ?
Oui, j'ai chanté. Mmh. J'ai chanté mes musiques pour mon cours de chant.
Mmh. Moi, je dormais.
J'étais sûre que tu dormais.
Et là, je suis en train de jouer à la maîtresse.
Mmh. C'est bien.
Avec mes poupées.
Mmh. Très bien.
Alors, j'ai rencontré Babette dans le train. Je l'ai vue, je me suis dit, il faut absolument que j'aille lui parler.
Et depuis, c'est une histoire qui dure depuis quand même pas mal d'années.
Combien ?
Et ça fait 17 ans, et on a deux petites filles. Cerise est née en 2008, j'avais 27 ans. Donc j'ai appris que j'étais enceinte à 26 ans, et j'étais pas prête du tout. Pour moi, effectivement, je voulais le chemin classique. Mariée et après avoir des enfants. Sauf qu'elle est arrivée un peu plus vite que prévu. On a eu peur, hein, ultra peur. Hein. Mais on a pris nos responsabilités et c'était la plus belle chose qui nous est arrivée.
Qu'est-ce que vous retenez des premiers mois ?
Oh là 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 là. Ah, la première année, c'est... La première année en tant que parent, c'est violent. Ça a été le feu dans ma tête. Quand elle est née, les nuits blanches, je devais dormir une heure par nuit. Enfin, c'était atroce et je me suis dit que je ne tiendrais jamais.
Après, il y a eu une grosse période où j'avais plutôt le sentiment de servir à pas grand-chose. C'est vrai qu'on va dire l'enfant est plus connecté avec la maman, surtout quand elle décide de l'allaiter. Donc j'avais plus le sentiment de venir aider plutôt que de me sentir papa. Pour moi, papa, ça ressemblait à donner un coup de main. Mais vraiment, les premiers mois, du vide.
Je pense que c'est normal en fait qu'il ait pu le ressentir parce que je couvais. Ça veut dire que moi j'avais totalement occulté mon rôle de femme, j'avais totalement occulté tous mes rôles. J'étais devenue la maman de Cerise et je ne laissais à personne l'occasion ni l'opportunité de créer réellement du lien avec Cerise parce que peut-être la culpabilité aussi de ne pas avoir été contente au début de l'annonce de la grossesse, je sais pas, mais c'est vrai que je la surprotégeais. Alors le premier conflit que l'on a eu a été le problème du coucher, des bras et des pleurs. William me reprochait d'avoir trop ce dans les bras en fait. Cerise, pardon, on l'appelle ce, mais c'est Cerise. De porter trop Cerise, d'être trop avec Cerise. Et les moments de coucher étaient compliqués. C'est-à-dire que moi, quand j'allais coucher Cerise, elle dormait, je la posais sur le lit, elle pleurait. Donc je la reprenais forcément. Et je redescendais avec elle. Et pour William, c'était non, c'est pas possible. En plus, on était jeunes, donc on avait une idée bien précise de la parentalité qui était peut-être fausse, mais. Du moins, pour lui, c'était non, l'enfant doit dormir, il faut que tu te couches, même s'il pleure. Et je disais, mais non, c'est impossible pour moi d'entendre mon enfant hurler, c'est pas possible. Que pour lui, je pense que c'était, quand on est parent, l'enfant, il a terminé ce qu'il avait à faire, s'il pleure, c'est du caprice.
Vous, ça nous est déjà arrivé quand on recevait des amis qui, eux, justement, n'avaient pas d'enfants parce qu'on était jeunes. Et je découvrais Babette qui descendait avec la petite. Alors, c'est pas qu'on avait honte d'avoir un enfant parmi les autres qui n'en avaient pas. Mais je m'étais dit, non, ça, c'était pas ce qu'on s'était dit.
Ça m'énervait. On ne s'est jamais hurlé dessus pour ça, mais ça m'énervait. Et je me disais, mais aujourd'hui, je suis capable de le dire. Mais à l'époque, je ne savais pas le dire. Je pense que j'avais envie de dire, mais je vis la maternité comme j'ai l'envie, en fait. Il est écrit nulle part que je n'ai pas le droit de toucher à mon enfant. S'il pleure, oui, voilà. Donc, on a réussi à trouver, en fait, la meilleure solution du monde. Le moment du coucher, c'était son moment. Donc, moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas coucher un enfant, je le dis, je ne sais pas. Mais William, c'est le pro. Ça veut dire que, en fait, on l'avait ritualisé. Il avait réussi, parce que moi...
Ouais, voilà, le revers de mes notes, c'est que ça s'était ritualisé, voilà. Du coup. Ouais.
Lui, il a réussi à ritualiser la petite. Donc, elle savait que quand papa arrivait, qu'elle allait passer son moment avec papa, qu'il allait lui faire des câlins et qu'après, il allait la poser dans son lit. Donc, du moment où il montait les escaliers jusqu'à ce qu'il redescende, aucune larme, aucun cri. Moi, je faisais la même chose le lendemain, mais c'était...
L'apocalypse.
Ah non, mais c'était l'apocalypse. Non.
Et ce que je faisais, je mettais un coussin comme ça. Je faisais le dernier poids, je crois que je le fais encore. La dernière fois, j'ai essayé de calmer Salomé, parce qu'elle fait beaucoup de cauchemars en ce moment. Donc, elle croit que je m'endors avec elle. Je continue à mettre le coussin comme ça pour faire du poids, comme ça. Puis après, je m'esquisse tout doucement. Donc, pour Salomé, ça marche comme ça aujourd'hui.
J'ai jamais réussi. Hein. Tu m'avais déjà dit une fois, je pense, ou un truc que j'ai essayé, drame. Donc, j'ai arrêté. Pour toi, être un papa idéal, c'était mettre de la rigueur, quoi. On a, en plus ça, je pense que toi, t'as été élevé comme ça. Ça veut dire qu'il y avait l'heure du repas, l'heure du coucher. Enfin, alors que moi, je mangeais à l'heure où le repas était prêt et je m'endormais. Enfin, ça n'a jamais été comme ça. Donc du coup, c'est quand on a eu ce, moi, je comprenais pas qu'il soit aussi ferme par rapport à elle reste dans la chambre, elle pleure, parce que moi, j'avais pas du tout été élevée comme ça. Donc après, il n'y a pas une meilleure éducation qu'une autre. Hein. On a réussi tous les deux après à trouver on va la faire dormir dans sa chambre, mais tu dors avec elle. Et il l'a fait avec Salomé, et encore aujourd'hui, en fait. Donc Cerise a 11 ans, Salomé en a 6, et encore aujourd'hui, ils ont ces moments, ces rituels. Vous les avez jamais perdus.
Reportage très intéressant, Clarence Thierry. Vous avez envie de dire un mot sur ce que vous venez d'entendre, en plusieurs mots, j'imagine.
Ouais, je trouve ça hyper chouette. Pour le coup, c'est un bel exemple de règles, finalement. Alors, c'est pas écrit, c'est pas dans un pacte, mais finalement, c'est des règles qu'ils se sont naturellement mis au fur et à mesure de l'évolution de leur couple avec l'enfant et pour trouver les solutions. Ouais. Mais moi, dans la même idée d'éducation différente, dans notre couple, moi, je finissais jamais mon assiette. Et ça le rendait complètement hystérique que je finisse pas mon assiette, parce que lui, dans son éducation, c'est vraiment hyper mal. Donc il le prenait pas bien, il comprenait pas. On a pu avoir pas mal de disputes à cause de ça. Et puis, avec l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On force à finir son assiette ou on le force pas? Qu'est-ce qu'on choisit? On a dû un peu en discuter, parce que lui, pour le coup, il finit son assiette, mais du coup, il n'a pas de sentiment de satiété. Ce qui lui a pu lui mener à des problèmes de poids et de rapport avec la nourriture. Bon, bah, moi, j'ai moins ça. Donc, on a défini tous les deux qu'on essaierait qu'elle se serre peu, mais que finalement, on ne lui obligera jamais à finir son assiette.
Donc, on invente
une règle qui n'est ni la mienne, ouais, ni la sienne, mais quelque chose qui nous va à tous les deux et dans lequel on pourra élever notre enfant.
Oui, Patrick Avran.
Bah, je pense qu'effectivement, il y a une répartition des rôles. Dans le reportage qu'on a entendu, je dirais c'est du pain béni pour les psychanalystes. Parce que vous avez d'un côté une mère qui est effectivement dans la proximité de son enfant,
oui,
et puis un père qui va faire quoi? Il va faire intervenir la loi.
Oui, c'est
d'une certaine façon la fonction paternelle. Celui qui dit, à partir de maintenant, ça suffit, il y a des règles, on se couche, etc. Alors évidemment, dit comme ça, c'est caricatural, mais en fait, les choses sont organisées par les deux parents en même temps. Hein. C'est pas simplement la mère qui est toute permissive et le père qui est interdicteur. Mais c'est effectivement,
oui, des fois, c'est l'inverse.
Comme la façon d'organiser le repas avec les enfants en fonction est-ce qu'on finit, est-ce qu'on finit pas son assiette. Il faut qu'il y ait un accord sur les deux. L'accord sur les deux, c'est quoi? C'est à la fois dire qu'il faut qu'il y ait une règle, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, et en même temps que cette règle, elle ne soit pas quelque chose qui vienne de l'extérieur, qui soit complètement absurde et portée par on ne sait quelle parole interdictrice.
Est-ce que vous diriez que la femme et l'homme sont sur un même pied d'égalité quand ils deviennent parents? Parce que dans le reportage, William disait qu'avant d'être parent, je crois, il pensait que papa s'était donné un coup de main. C'est ce que j'ai entendu.
Bah, je pense que chacun a son rapport avec ça. J'espère qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas dans l'idée de donner un coup de main. Mais par contre, je pense que c'est difficile les premiers mois pour le papa, parce que l'allaitement, parce qu'il y a un rapport fusionnel sûrement avec la mère. On l'a quand même porté pendant 9 mois. Eux, ils nous ont regardés, ils nous ont vus grosses, mais c'est à peu près tout. Donc, il faut retrouver du lien. Et après, bah, à chaque papa et puis à chaque couple, de donner ou pas le rôle et de faire confiance. Moi, c'est vrai que dans mon cas, j'ai eu un accouchement un peu compliqué qui fait qu'il s'est approprié l'enfant tout de suite, puisque moi, je ne pouvais pas m'en occuper du tout. Donc, c'est lui qui a appris à faire ses premières couches, à faire le bain, etc. Et ça, pour le coup, ça nous a un peu... en tout cas, lui, ça l'a beaucoup aidé à prendre son rôle.
Oui, oui. Océna Gomez, un mot sur ce que vous avez entendu dans le reportage?
Oui, tout à fait. Oui, c'est un cas classique. Hein. Et moi, là, je voudrais faire référence à mes origines aussi. En Afrique, les premiers...
Vous êtes d'origine congolaise
oui,
comme votre conjoint?
Oui, tout à fait. Et les premiers mois, et même jusqu'à 3 mois, je crois, l'enfant reste... il est couvé par la mère. Donc, la séparation se fait de façon graduelle. C'est que, donc, il y a une continuité. La maman, elle a porté 9 mois. Ensuite, elle allaite, donc on porte beaucoup.
C'est comme ça que ça se passe au Congo.
Oui, ça se passait avant dans la grande majorité des familles, maintenant beaucoup moins, mais du moins c'est ce que moi j'ai observé. Et c'est également ce que j'ai reproduit de façon instinctive. Et ce que j'avais pu observer, c'est que les premières semaines, l'enfant est porté par la mère, il est allaité, il est accueilli comme ça dans le monde. Et le père vient peu à peu séparer cette relation fusionnelle, mais ça se fait graduellement et il n'y a pas de ça se fait vraiment de façon progressive.
Oui, vous voulez rajouter quelque chose?
Ça se fait graduellement, mais c'est présent dès l'origine. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, le père va intervenir, quelque chose va faire qu'il y a effectivement une rupture qui va se passer dans cette fusion entre la mère et l'enfant. Et la question, vous parliez tout à l'heure effectivement de l'allaitement. Alors, quitte à me faire honnir par un certain nombre d'ayatollahs qui sont pour l'allaitement maternel, je pense que dans des pays où
Ayatollah,
la question...
Ayatollah, c'est un petit peu fort quand même.
Où la question... Ah bah si, où la question de la santé ne se pose pas, l'allaitement maternel n'a pas à être absolument exigé. Il y a aujourd'hui une exigence pour certains d'un allaitement maternel, alors que justement l'allaitement au biberon permet à certains moments au père d'intervenir tout de suite. Il peut prendre cette place et soulager la mère, par exemple, d'avoir à se réveiller la nuit.
Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une petite pression, je dirais, aujourd'hui. Mais c'est des modes qui passent. Et Mais là, je crois que c'est l'OMS qui a quand même conseillé d'allaiter pendant au moins 6 mois. Et que c'est alors déjà pas simple dans nos sociétés. Et effectivement, qui donne peu de place au papa. Après, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et puis ici, là, chacun fait, fait un peu...
Absolument, parce que l'allaitement, c'est pas uniquement du lait. C'est de l'amour. Hein. Si une femme se sent obligée d'allaiter, c'est quelque chose qui peut être plutôt négatif pour le nourrisson, à partir du moment où ce n'est pas justement un geste d'amour, à partir du moment où c'est un geste imposé. Hein. Donc je pense que c'était important de pouvoir laisser le choix, en tout cas dans des pays où la question, je dis à nouveau, de la santé, de l'hygiène ne se pose pas.
Hein. Oui. Alors on va continuer d'en discuter dans quelques instants. Pour le moment, place à la musique avec Alice Merton, c'est No Roots. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des futurs parents et de comment rester un couple uni quand on a des enfants. Alors, je vous le disais en début d'émission, nous sommes aussi en ligne avec Romina Rinaldi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, chargée de cours à l'Université de Mons et journaliste scientifique à la revue Sciences Humaines et auteur de Éloge des mères imparfaites aux éditions Accent Aigu. Alors, livre avec lequel vous tentez donc de poser un regard exhaustif et décalé sur les grands sujets qui concernent les nouveaux parents. On en a discuté dans cette émission. Et alors, pour vous, il y a trop de règles finalement pour les futurs parents, c'est ça, Romina Rinaldi ?
Alors, il y en a beaucoup, oui, et sans doute de plus en plus.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous expliquer un petit peu cela ?
Oui, je suis désolée, je parle un peu en décalé parce que je m'entends, il y a un écho. Alors, c'est vrai que par rapport à cette notion de pacte parental dont vous avez parlé en début d'émission, pour moi, c'était assez révélateur de cette multitude de règles, en tout cas, ces règles qui augmentent de façon considérable avec une culture parentale qui change, en fait.
Hein, oui.
Et cette idée d'un nouveau paradigme dont je parle dans le livre, qui est celui de parentalité totale. Hein, donc, un espèce de projet selon lequel les parents ont les ressources, les moyens et le temps surtout de tout contrôler dans le développement de leur enfant. Et ces zones de contrôle, elles se multiplient sans arrêt en fait. tout ça étant porté sur la question du risque, en fait. Comme l'enfant est à risque et que les parents ont la responsabilité presque individuelle de se charger de son développement, de son bon développement à tous les niveaux, ils doivent en fait poser toute une série d'actes et de choix qui sont non pas vécus comme de simples choix, voilà, d'orientation qui sont prises dans la famille, mais vraiment des choix qui ont un impact potentiellement important sur le développement de leur enfant. Mmh. Et tout ça leur demande beaucoup de ressources. Et donc,
de pression aussi, peut-être, c'est ça, ce que vous dites.
Énormément de pression, voilà. Il y a à la fois la pression des discours de santé publique, il y a la pression de la science, notamment toute cette neuroculture dans laquelle on fait planer un risque de mauvais développement cérébral si on ne propose pas à l'enfant les bons jeux, les bonnes lectures, les bonnes positions parentales, etc. Donc tout ça, effectivement, c'est beaucoup de pression, et c'est beaucoup de pression pour l'enfant et pour les parents, puisque à mesure que les besoins de l'enfant augmentent, de façon théorique en tout cas, et que le risque augmente, eh bien les parents sont censés gommer leurs propres besoins, leurs propres désirs, et se restreindre toujours plus à cette discipline qu'on leur impose, en fait.
Et finalement, peut-être aussi être un peu dans une sorte de peur, c'est ça que vous dites également?
Absolument, oui.
Mais alors, cette peur... Cette peur, est-ce qu'elle ne vient pas aussi naturellement quand on a un enfant, peut-être, quand on a de nouvelles responsabilités et qu'on s'inquiète de sa progéniture ?
Mais je crois que c'est la posture parentale implique de toute façon quelque chose de l'ordre de la protection, donc forcément de la peur qui va venir se positionner de façon complémentaire à ce devoir de protection. Maintenant, il y a une différence entre être parent, avoir un rôle social qui implique cette protection de l'enfant, et sans arrêt faire vibrer la corde sensible du risque chez les parents, surtout les parents éduqués qui s'informent, etc., parce qu'on est amené à poser des choix dans des choses, enfin en tout cas dans des domaines qui nous paraissaient des plus triviaux auparavant. J'en parlais encore hier, par exemple le siège auto. En tout cas, la façon de déplacer l'enfant, c'est quelque chose qui il y a quelques années paraissait voilà assez trivial, et maintenant c'est devenu une source de débat, en fait, source d'informations, des informations qui se multiplient, qui se contredisent. Et bon, le siège auto est une chose, il y a des risques de lésions physiques, bien
oui,
sûr,
et il faut,
voilà, c'est ça. En fait, l'idée est de multiplier les sources de contrôle à tous les niveaux, en fait. Donc, c'est ce qu'on donne à manger à l'enfant, c'est ce qu'on... encore une fois, les jeux qu'on propose, ce qu'on lit, etc.
Donc, finalement, j'essaye de résumer un petit peu, beaucoup oui. d'injonctions, et peut-être au détriment de l'affection, de l'amour que l'on peut apporter à son enfant.
Ah, c'est sûr que plus on engage de ressources cognitives à chercher la bonne façon de faire, moins on s'autorise à être dans une relation authentique avec son enfant, qui oui. est de toute façon pour laquelle la base, c'est l'amour, en fait. Et peut-être un espèce de bon sens parental qui est souvent mis de côté dans toutes ces injonctions, en fait.
Oui. Des éléments que l'on retrouve dans votre ouvrage « Éloge des mères imparfaites ». Merci beaucoup, Romina Rinaldi, d'avoir été avec nous dans cette émission.
Merci à vous.
Un mot sur ce que vient de dire Romina Rinaldi ?
J'avoue que moi, je ne me reconnais pas tellement là-dedans. Alors, je ne dois pas être la caricature de ça, parce que pour le coup, j'ai pas l'impression de me mettre beaucoup de pression. J'ai pas l'impression de lire beaucoup de choses, et voilà, pour être sûre que c'est la bonne éducation, que c'est le bon choix. Je crois que je le fais à l'instinct, et puis, sans trop me poser de questions. Donc, j'ai pas ce sentiment-là. Après,
oui, Patrick Avran.
Il y a un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott qui a inventé un concept qui est celui de mère suffisamment bonne. Qu'est-ce que c'est qu'une mère suffisamment bonne ? C'est justement une mère qui laisse aller son enfant quand par exemple il apprend à marcher, et qui n'est pas tout le temps derrière lui, c'est-à-dire qui le laisse se casser la figure. Bien évidemment pas se casser la figure dans l'escalier, mais tomber un petit peu sans se faire mal. C'est ça, hein, être parent, c'est à la fois mesurer les risques, évidemment... attacher son enfant dans un siège auto, ça me paraît évident, sans se poser de questions, hein, mais en même temps, ne pas surexploiter ces risques, c'est-à-dire ne pas surprotéger. Et il me semble que, quelles que soient les injonctions, les parents sont tout à fait capables de faire le tri entre ça, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'ils peuvent leur donner à manger et puis qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter, savoir à quel moment il faut l'attacher dans la voiture, savoir à quel moment on peut le laisser partir en vélo et puis être prêt à le rattraper, parce qu'il peut tomber, mais il ne faut pas qu'il se fasse mal. Enfin, voilà, c'est entre les deux.
Oui. Hein? Osina Gomez.
Oui, oui. Ça m'inspire, en fait, une phrase que j'ai lue, je crois, dans le livre de Céline Alvarez, qui disait « Les parents, vous savez ce qui est bon pour votre enfant, faites-vous confiance. »
Et donc, de moi, écouter un peu ce qu'on peut entendre ici et là.
Se faire confiance à soi, faire confiance à son enfant. Bien sûr, se documenter, mais s'écouter d'abord. Et moi, j'ai un...
Et écouter son conjoint
aussi, s'écouter, je parle voilà, des parents d'une seule voix, se faire confiance, et faire confiance à son enfant, avant d'écouter les autres.
Oui. Alors, pour terminer, comment on réussit à s'entendre sur l'éducation des enfants lorsqu'on ne pense pas de la même manière, finalement ? La communication, on a parlé beaucoup de ça.
Oui. En même temps, savoir, comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits, mais que les conflits, ce n'est pas forcément la guerre. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, il s'agit d'en parler, et puis de trouver la façon de faire qui correspond aux deux parents à la fois.
Oui.
Et c'est l'essentiel, je dirais, en parler et en même temps savoir ce à quoi chacun peut renoncer en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant.
Oui, oui.
Ouais, finalement, là, ce qu'on a fait dans le pack de futurs parents, c'est vraiment plus pour imaginer toutes les questions qu'on peut se poser quand on n'a pas eu d'enfant encore. Donc, on ne sait pas encore les questions qu'on peut se poser. C'était un peu l'idée d'avoir un outil qui nous permet de savoir ça. Mais finalement, c'est ce que fait naturellement n'importe quel couple qui communique, c'est-à-dire qu'il se trouve des règles implicites qui leur permettent de respecter leur zone chacun et de trouver des compromis. Donc, c'est effectivement trouver toutes ces micro-règles qui vont régir implicitement ou explicitement.
Et des règles qui peuvent évoluer, j'imagine aussi, en fonction de l'évolution de l'enfant, si on se sépare également, si on est une famille recomposée, qu'on n'a pas évidemment évoquée. Osina Gomez, c'est un peu le mot de la fin.
Ah, oui, la pression, du coup.
Ah non, pas du tout. Non, justement.
Oui, bien évidemment, la communication, le respect, donc respecter le fait que l'autre ne pense pas comme je pense, et moi aussi, respect, voilà, ce respect mutuel, et surtout se souvenir, ce qui fait couple, c'est qu'en amont, nous nous sommes unis sur une base de valeurs communes, nous avons une vision commune, un projet de vie commun, et l'enfant est cette extension-là. Donc, se référer à ce qui fait ce que nous soyons un couple, et quel est le meilleur de nous-mêmes que nous voulons transmettre à notre enfant.
Oui, vous voulez rajouter quelque chose, un dernier quelque
Ce
chose.
Qui est important, c'est que l'enfant, il n'est pas à choisir entre son père et sa mère, parce que s'il choisit, il a toujours l'impression qu'il y en a un qui va pas aimer. Hein. Et donc, c'est ça qui implique qu'il y ait un dialogue entre les parents.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Clarence Thierry, je rappelle, auteur avec Sylvain Tillon du livre « Le pacte des futurs parents » aux éditions Erol, Osina Gomez, consultante en communication et stratégie de marque, créatrice de la web-série Maman du Monde, Patrick Avran, psychanalyste et écrivain, auteur de Les grands-parents, une affaire de famille, ainsi que de l'ouvrage Les pères encombrants. Nous étions également avec Romina Rinaldi. Merci aux équipes Cécile Lavolo, Romain Dubrac et Baptiste Madinier. Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Demain, 7 milliards de voisins. Nous parlerons de l'univers des start-up. À demain et prenez soin de vous.
RFI, la sélection du mois.